à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce jeudi 29 novembre 2018. Mini-sommet à N'Djamena consacré à la guerre contre Boko Haram. Début d'une série de manifestations au Togo pour dénoncer le processus électoral actuel. Au Gabon, des syndicats appellent à une grève générale pour dénoncer l'absence du président Bongo qui poursuit sa convalescence au Maroc. Le président américain annule finalement sa rencontre avec son homologue russe en marge du sommet du G20 sur fond d'escalade en Ukraine. Dans la partie magazine, gros plan sur le trafic de faux médicaments en Afrique, un business lucratif qui fait chaque année des milliers de victimes.
On m'a fait faire une ordonnance, je suis allé à la pharmacie. L'argent qu'ils m'avaient dit, c'est trop cher.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad et le premier ministre camerounais se sont réunis à N'Djamena pour un mini-sommet consacré à Boko Haram. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
La réunion entre les présidents nigériens Muhammadu Buhari, nigérien Mahamadou Issoufou et tchadien Idriss Déby Itno et le premier ministre camerounais Philemon Nyang a porté sur la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Le président Buhari avait promis avant son élection en 2015 d'éradiquer le groupe djihadiste. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, il avait même assuré que Boko Haram était techniquement vaincu. Candidat à sa propre succession pour la présidentielle de février prochain, M. Buhari a déclaré hier devant des hauts gradés que Boko Haram devait être éliminé de la surface de la terre. Les soldats nigériens déployés dans le nord-est se sont plaints à plusieurs reprises de manquer d'armes et de vivres. Un officier nigérien a déclaré qu'une de leurs bases a été attaquée mardi par Boko Haram et les soldats mis en déroute ont perdu 3 hommes. À la mi-novembre, une faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées hier dans un attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes à Amichidé, dans l'extrême nord du pays.
En Côte d'Ivoire, 11 étudiants ont été blessés, dont certains par balles, hier soir à Boaké, la deuxième ville du pays, lors d'un affrontement avec des gardes pénitentiaires après une rixe. Il s'agit d'un nouveau bilan donné ce jeudi par le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ce comité réclame le déménagement du camp pénal et des logements des gardes pénitentiaires, actuellement situés en face du campus 2 de l'université Alassane Ouattara, dans l'ouest de Boaké. Il indique que c'est la 5e fois que des incidents oppose des gardes pénitentiaires aux étudiants. Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce jeudi à Ouagadougou au cours d'une journée de grève générale contre la hausse des prix des carburants et pour exiger le retour aux anciens prix. Pour justifier l'augmentation des prix des carburants, le gouvernement invoque la hausse du prix du pétrole sur le marché international, la situation difficile de la trésorerie de la Société nationale burkinabé des hydrocarbures et la nécessité de soutenir l'effort de guerre contre les djihadistes. Nous y reviendrons dans le segment magazine tout à l'heure. Au Togo, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale ce jeudi afin de réclamer l'arrêt du processus électoral en cours. C'était la première d'une série de 4 protestations à l'appel de la principale coalition de l'opposition qui a décidé de ne pas présenter de candidat aux élections législatives du 20 décembre prochain. De Lomé, la correspondance de Kay Lorson.
La coalition des 14 partis de l'opposition a battu le pavé pour exiger l'arrêt immédiat du processus électoral en cours. La mobilisation était forte comme lors de la marche du 17 novembre.
Nous voulons l'alternance.
On veut dégager.
Il n'a pas dégagé.
On en a assez.
Qu'il parte.
Fort va dégager.
La coalition demande à ses militants et sympathisants de boycotter les législatives du 20 décembre prochain. Elle affirme qu'elle s'engagera dans le processus électoral une fois que les conditions de transparence seront réunies. Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la C14, affirme que les actions de la CENI ne peuvent conduire qu'à une mascarade. La manifestation de ce jeudi n'est que la première partie d'une série de 4 baptisée le déluge total. D'autres manifestations sont prévues les 1er, 3 et 4 décembre. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Parti de Riyad hier soir, le président gabonais Ali Bongo Ondimba est arrivé à Rabat pour y poursuivre sa convalescence après avoir passé plus d'un mois dans un hôpital de la capitale saoudienne. Le point avec Nanit Talani.
Le président Ali Bongo Ondimba a été conduit dans un hôpital de Rabat où il poursuivra sa convalescence et sa rééducation pour une durée inconnue et pour une maladie qui n'a jamais été révélée. Aucune image du chef de l'État gabonais n'a été diffusée ni à son arrivée au Maroc, ni à son départ de Riyad. Cette absence d'image depuis son hospitalisation à Riyad le 24 octobre suscite des interrogations et des inquiétudes au Gabon. Depuis un mois, les autorités de Libreville ont fait deux communiqués sur l'état de santé d'Ali Bongo. D'abord pour annoncer son hospitalisation en Arabie Saoudite, puis pour dire qu'il était dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. La présidence n'a pas annoncé non plus hier son départ de Riyad. C'est Sylvia Bongo Ondimba, son épouse, qui l'a annoncé sur sa page Facebook et plusieurs heures après, le gouvernement a confirmé ce transfert.
Pendant ce temps, des syndicats appellent ce jeudi à une grève générale du 10 au 12 décembre prochain pour dénoncer l'absence du président Bongo pour la coalition dynamique unitaire. Cette absence depuis plus d'un mois la prive d'interlocuteurs et empêche de résoudre les problèmes liés aux mesures d'austérité prises par le gouvernement. Elle entend également dénoncer par une marche pacifique le 18 décembre la modification illégale de la Constitution, dit-elle, pour pallier l'absence du chef de l'État. En République démocratique du Congo, une radio proche de l'opposition a été fermée en pleine campagne électorale dans l'est du pays. Il s'agit de la radio Iriba FM, émettant à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, a été fermée sur ordre du parquet. L'ONG Journaliste en danger a dénoncé ce jeudi ce qu'elle appelle une volonté de réduire au silence cette radio.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, ouverture demain à Buenos Aires du sommet du G20, mais la rencontre annoncée entre le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'aura plus lieu. Le locataire de la Maison Blanche vient de l'annoncer via Twitter. Les détails avec Abdourahman Zia.
En route vers la capitale argentine où se tient à partir de demain le sommet du G20, le président Trump a expliqué sa décision par le fait que les navires ukrainiens saisis par la marine russe la semaine dernière ne soient toujours pas relâchés. Cet incident en mer avait provoqué une subite remontée de la tension entre la Russie et l'Ukraine qui a déclaré hier la loi martiale. Et pourtant, ce matin, le porte-parole du Kremlin avait déclaré que les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine allaient bel et bien se rencontrer à Buenos Aires. Par ailleurs, en marge de ce sommet, le président Trump aura un entretien séparé avec son homologue chinois Xi Jinping pour discuter des tensions commerciales entre les deux pays. La présence du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et du président turc Recep Tayyip Erdogan rend inévitable la question du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul. Autre sujet brûlant, le Brexit. La première ministre britannique est en pleine offensive pour vendre à ses compatriotes le projet d'accord de divorce avec l'Union européenne.
Pour revenir au conflit russo-ukrainien, les Européens tentent de calmer les ardeurs de l'Ukraine. Angela Merkel appelle Kiev à la retenue après l'appel du président ukrainien Petro Porochenko à envoyer l'OTAN pour faire face à la Russie en mer d'Azov. Pour la chancelière allemande, il n'est possible de résoudre les choses qu'en restant raisonnable, en discutant les uns avec les autres. Moscou a intercepté dimanche dernier 3 navires ukrainiens en mer Noire, non loin de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Michael Cohen, ancien avocat du président américain Donald Trump, a plaidé coupable ce jeudi à Manhattan d'avoir menti lors de son audition devant le Congrès américain sur ses contacts avec des Russes, d'après plusieurs médias. Objet de poursuites pénales, l'homme de loi avait déjà plaidé coupable fin août dernier de plusieurs chefs d'accusation et après avoir pris ses distances avec le président américain, coopère avec le procureur Robert Mueller, chargé de l'enquête russe. Quant au président Trump, il a ce jeudi accusé l'avocat d'avoir menti afin d'obtenir une peine réduite. Et puis, la star ivoirienne du reggae Tiken Jafakoli se félicite que la musique popularisée par Bob Marley soit inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Pour lui, le combat du reggae est désormais reconnu. Le reggae a émergé en Jamaïque à la fin des années 1960. Il est indissociable du rastafarisme, mouvement spirituel qui sacralise l'empereur éthiopien Haïlé Selassie et promeut l'usage de la ganja ou marijuana. Tsiken Nadja, qui milite pour le développement de l'Afrique, assure que Bob Marley souhaitait que le reggae retrouve sa source, c'est-à-dire l'Afrique. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
La Côte d'Ivoire accorde à tout opérateur de la filière EVIA une autorisation exceptionnelle d'exportation de tasses d'EVIA entre le 15 mars et le 31 décembre 2018. Afin d'absorber toute la production locale, le gouvernement ivoirien appuiera aussi les initiatives des opérateurs visant à accroître la capacité nationale d'usinage. La société sud-africaine Karan Beef, qui gère le plus grand parc d'engraissement de bétail en Afrique, prévoit d'exporter la viande de bœuf vers la Malaisie, selon l'agence de presse Bloomberg. Début 2019, elle devrait se soumettre à une vérification de la part des autorités malaisiennes pour assurer qu'il répond aux normes de production halal. Terminons avec le prix du baril de pétrole qui est tombé sous la barre des $50, une première depuis octobre 2017. La perspective d'un surplus d'offres inquiète les marchés à une semaine d'une réunion de l'OPEP. La référence américaine du brut est tombée à $49.41. La référence américaine du brut est tombée à $49.81. En Europe, le baril de référence est tombé à $57.50 également, à son plus bas niveau depuis octobre 2017. À Londres, le baril de Brent est tombé à $58.11, en baisse de 65 cents.
Et maintenant, un condensé de l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
La CAF va examiner demain à Accra la question de la CAN 2019 au Cameroun.
Oui, le comité exécutif de la CAF va se réunir dans la capitale ghanéenne à marge de la CAN féminine. Un compte-rendu des deux dernières visites d'inspection sera exposé au comité exécutif de l'organisation africaine au cours de la réunion. Les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une autre sur les infrastructures, stades et hébergements au Cameroun. Après la réunion des dirigeants, une décision sera rendue sur le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun, d'après un responsable de la CAF qui n'a pas précisé quand exactement cette décision serait rendue. Il sera aussi question du cas de la Sierra Leone suspendue par la FIFA et qui a manqué les trois dernières journées des éliminatoires de la CAN 2019 et du format des éliminatoires des CAN 2021 et 2023 ainsi que de ceux de la Coupe du Monde 2022.
Le Sénégal a détrôné la Tunisie à la tête du classement FIFA Zone Afrique.
Et oui, les Lions de la Teranga ont dépassé les Aigles de Carthage, battus à deux reprises ce mois de novembre. Grâce à ces deux succès, le Maroc s'est hissé, quant à lui, sur le podium continental. La suite de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 et quelques rencontres amicales ont occasionné ce changement de leader au niveau africain. Peu de changements en revanche au plan mondial, la Belgique a conservé son avance en tête devant la France.
Un long dimanche de derby en Premier League.
Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham et Liverpool Everton. La 14e journée du championnat d'Angleterre est très attendue avec trois passionnants derbys au programme. En cas de succès, les Gunners 5e avec 27 points peuvent rejoindre les Spurs 3e avec 30 points. Liverpool 2e, 33 points essayera de suivre la cadence infernale des Citizens contre Everton. Chelsea jouera de son côté pour retrouver le podium duquel il est tombé à la journée précédente après sa défaite 3-1 contre Tottenham. Bien avant, samedi, Manchester United se déplace à Southampton à la quête d'un premier succès en championnat en plus de 3 semaines.
Et puis à Kouba, Choupo-Moting cambriolé pendant le match contre Liverpool.
Oui, l'attaquant camerounais du PSG a été cambriolé avec 600 000 euros d'effets volés pendant qu'il jouait au Parc des Princes contre Liverpool hier, selon une source policière. L'appartement d'Éric Maxime Choupo-Moting est situé dans l'ouest de Paris. Le PSG s'est imposé 2-1 à l'issue de la rencontre.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Je vous le disais un peu plus tôt, les dirigeants mondiaux se préparent pour un sommet du G20 qui débutera demain, vendredi, à Buenos Aires, en Argentine. Cette réunion de deux jours s'inscrit dans un contexte difficile entre guerre commerciale et zones de tension allant de l'Ukraine au Moyen-Orient en passant par la mer de Chine méridionale. L'agenda détaillé avec Raissa Girondin.
Le décor est planté pour un sommet mouvementé, alors que les dirigeants des deux plus grandes économies du monde se rencontrent en pleine guerre commerciale. Le président américain Donald Trump a menacé de relever les droits de douane de 10 à 25% sur les importations chinoises pour 200 milliards de dollars. Il a mis en garde contre une augmentation des tarifs si aucun accord n'est conclu avec Beijing sur des questions telles que les déséquilibres commerciaux et la propriété intellectuelle. La Maison-Blanche estime qu'elle doit maintenir son élan en vue d'un nouvel accord. La Chine, de son côté, met en garde contre de graves conséquences si la guerre commerciale s'intensifiait. Cui Chenkai, ambassadeur de Chine aux États-Unis.
Au siècle dernier, nous avons eu deux guerres mondiales et entre elles, une grande dépression. Je ne pense pas que quiconque devrait essayer de répéter l'histoire.
Le premier sommet des dirigeants du G20 s'est tenu après la crise financière mondiale de 2008. Tristan Naylor, London School of Economics.
Une décennie plus tard, la plus grande menace qui pèse sur l'ordre économique établi vient en fait de manière surprenante du principal défenseur de cet ordre avec des guerres commerciales protectionnistes lancées par le président Trump et sa politique étrangère de l'Amérique d'abord.
Les tensions géopolitiques sont également sous-jacentes. La réunion a lieu quelques jours après que la Russie a percuté et saisi plusieurs navires ukrainiens au large de la Crimée. Kiev dit que l'incident s'est produit dans les eaux internationales. Mercredi, Poutine a accusé l'Ukraine. Vladimir Poutine, président russe.
Qu'est-ce que la force de contrôle des frontières était censée faire? Des navires militaires sont entrés illégalement dans les eaux territoriales de la Fédération russe.
Le prince héritier saoudien Mohamed Bel Salman, impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier, et le président turc Recep Tayyip Erdogan seront aussi présents au sommet du G20. Selon M. Naylor, il est essentiel que le sommet soit considéré comme une avancée sur les principaux défis mondiaux.
Si ces pays ne peuvent pas s'entendre, cela envoie le signal très fort de tous ceux qui ne sont pas autour de la table qu'ils n'ont pas besoin d'y adhérer.
Des milliers de manifestants antimondialistes se sont déjà rassemblés à Buenos Aires. 22 000 policiers sont déployés dans la capitale, alors que certains des combats les plus acharnés pourraient bien avoir lieu à l'intérieur du sommet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues aujourd'hui à Ouagadougou et dans plusieurs villes du pays. Un appel de la Coalition contre la vie chère, une organisation de la société civile, pour dire non à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Le gouvernement rassure qu'il va se pencher sur la revendication. De la capitale, la Burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
Élèves, étudiants, travailleurs, particuliers, hommes, femmes, vieux. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues et devant la bourse du travail à Ouagadougou. Tous étaient là pour protester contre l'augmentation de 8 novembre de 75 francs CFA des prix des hydrocarbures. Khalifa Kombéré, un des marcheurs.
La ville est devenue chère. Nous-mêmes, on se cherche maintenant.
Alors, vous voulez qu'on baisse les prix.
Les prix descendent, les prix démagent.
Les explications du gouvernement n'ont pu convaincre Fatima Tawatara.
L'augmentation du carburant, c'est bien vrai que le gouvernement est sorti parler, mais jusque-là, on a vu que ça ne va toujours pas. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est pour cela qu'on voudrait quand même leur demander de voir quand même, c'est la première fois que nous, notre service de femmes, se lève pour marcher.
les marcheurs se sont dirigés jusqu'au ministère du Commerce. Là, ils ont remis une note à transmettre au président du Faso. Le mouvement citoyen, la CCVC, dit lutter pour les meilleures conditions de vie des Burkinabés. Chrysogome Zoukmore, responsable de la CCVC.
Il s'agit d'une manifestation d'envergure nationale. À l'heure où je vous parle, sur l'ensemble du territoire national, les CCVC locales organisent le même type de manifestation et vont également adresser la plateforme de la CCVC à l'ensemble des autorités locales. Il s'agit là de la manifestation d'un mouvement citoyen qui veille sur les conditions de vie des Burkinabés. Comme vous le savez, la CCVC a été créée pour veiller à ce que les conditions de vie des Burkinabés s'améliorent.
Face à cette mobilisation, le gouvernement semble jouer bas la terre. Haruna Kabore, ministre du Commerce.
Je voudrais vous rassurer que je vais transmettre dès aujourd'hui même la plateforme. En main propre donc à son excellent monsieur le Premier ministre, nous allons donc nous employer à trouver les réponses idoines dans l'intégration donc de l'ensemble des populations.
Les organisations de la société civile, les syndicats, les partis politiques de l'opposition disent ne pas baisser la garde. Ils attendent de voir la réaction du gouvernement avant de passer à la vitesse supérieure. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h05 sur VOA Afrique dans votre émission À votre avis. On va parler des manifestations contre la hausse des prix du carburant qui se sont tenues récemment dans plusieurs pays africains et en France. Les gouvernements et les syndicats sont souvent à couteau tiré sur cette question, alors que les États tirent une bonne partie de leurs recettes des taxes sur la vente de carburant. Même les consommateurs de pays producteurs de pétrole estiment que le prix à la pompe est trop élevé. Quelle solution à la hausse des prix du carburant? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Et maintenant, plein feu sur un fléau qui fait des ravages en Afrique. Il s'agit de faux médicaments qui tuent des dizaines de milliers de personnes chaque année. Un rapport rendu public récemment appelle à de meilleures méthodes de suivi et de renforcement des lois afin de réduire le nombre de décès dus aux médicaments contrefaits, en Afrique de l'Ouest notamment. John Lyndon nous en dit davantage.
Des vendeurs ambulants qui sillonnent les rues, un phénomène habituel dans plusieurs villes africaines. Celui-ci traîne une valise pleine de médicaments, ou plutôt de faux médicaments. Et si ces médicaments ont le vent en poupe, c'est grâce à leur coût peu élevé. Moustapha Dieng, un client.
Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre, on m'a fait une ordonnance. Je suis allé à la pharmacie. Donc la pharmacie, j'ai trouvé que l'ordonnance, l'argent qu'ils m'avaient dit, c'est trop cher.
Dans la plupart des cas, les médicaments vendus sont contrefaits et ne peuvent donc empirer la situation du malade. Selon un rapport financé par l'Union européenne, près de la moitié des médicaments contrefaits ou de qualité médiocre signalés à l'Organisation mondiale de la santé entre 2013 et 2017 se trouvaient en Afrique subsaharienne. Des médicaments principalement fabriqués en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et dans bien d'autres pays, comme le souligne Robert Kongo, vendeur des médicaments de rue burkinabé.
Quand on vend, ça vient partout. Il y a produits chez nous ici, au Burkina, ici. Il y a Nigeria, il y a Lagos, il y a Ghana. Bon, il y a partout.
Chaque année, des médicaments antipaludiques de qualité inférieure ou faux causent la mort de 64 à 158 000 personnes. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé le mois dernier avoir saisi près de 400 tonnes de faux médicaments au cours des deux dernières années. Pour sensibiliser le public sur les dangers des faux médicaments, des campagnes ont été lancées. Le docteur Aimé Oumar Troué, membre du Comité national de lutte contre le trafic de faux médicaments.
Il faut dire que, apparu en 1980, le fléau des médicaments de la rue a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. Un médicament sur trois se trouve dans le secteur illicite. Donc on a 30% de la part du marché qui appartient aux médicaments de la rue.
L'Afrique importe 70% de ses produits pharmaceutiques et le commerce des faux médicaments a généré près de 30 milliards de dollars en 2017.
Il faut plus de 450 ans pour que les sacs en plastique se décomposent. En attendant cette échéance, ils polluent rivières et mers, bouchent les caniveaux et les égouts, ils tuent les animaux qui les ingèrent et intoxiquent les humains. C'est pour cette raison qu'Achille Noussia a conçu des sacs totalement écologiques à partir de matériaux recyclés. Le produit baptisé Civic Bag est un sac à usage multiple qui a l'ambition de responsabiliser les citoyens concernant la protection de l'environnement. Rendons-nous à Lomé avec Olivia Gakima pour le rencontrer.
L'initiative Civic Bag a été lancée en 2016 par Achille Noussia avec pour objectif de trouver une alternative pour les sacs en plastique, étant donné que le gouvernement avait banni la production et la commercialisation de ces sacs. Il a commencé à produire des sacs en papier en recyclant des sacs de ciment.
Je dirais que nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est la surabondance des sachets plastiques dans notre environnement. Ces sachets, une fois dans notre environnement, vous savez tout le mal que cela cause et tout le temps que ces sachets passent dans l'environnement avant de disparaître. Donc nous nous sommes dit, en tant que citoyens actifs, il faut qu'on arrive à trouver une solution à cela. Je rappelle en passant qu'au Togo, en 2011, les autorités ont pris un décret qui interdisait la production et la commercialisation de ces sachets-là. Mais il n'y avait pas tellement d'alternatives pour amener le citoyen à cesser de les utiliser.
Les sacs Civic Bag ont été un succès parce qu'ils ont comblé un vide qui avait été laissé par l'interdiction des sacs en plastique. Désormais, les citoyens ont une option viable.
Nous, on encourage vraiment l'initiative parce que ce sont des sacs très pratiques, confortables. Nous, on les utilise tout le temps pour nos livraisons, puisque nous livrons des repas, nous vendons des trucs. Donc, on les utilise. Et aussi, je pense que c'est une bonne idée dans le sens que ça permet d'éviter la pollution et ça remplace les sachets noirs, en fait.
La demande pour les sacs Civic Bag est tellement abondante que la société en produit plusieurs centaines par jour pour satisfaire ses clients.
L'impact, globalement, c'est positif. Parce que pour le Togolais lambda, il y a beaucoup qui n'ont jamais imaginé qu'on peut prendre le papier ciment et en faire un sac. Pour eux, le papier ciment, ça s'utilise en coupon, soit comme papier toilette, soit pour emballer des beignets, des brochettes et des arachides. Nous sommes parvenus à le transformer en sac. Qui plus est individuel. Ça les a d'abord émerveillés et ils ont trouvé qu'au-delà des sachets, il y a la possibilité d'utiliser des sacs en papier qui répondent parfaitement à nos besoins quotidiens.
L'initiative a remporté plusieurs prix, notamment le prix PP Togo en 2017, le premier prix du concours de start-up organisé dans le cadre du Forum international pour le développement FIDEA 2017. Achille Noussia a aussi été reconnu comme jeune entrepreneur influent de l'année 2017, ayant décroché le deuxième prix dans cette catégorie.
Eh bien oui, je vous le disais, le reggae, la musique popularisée par Bob Marley, est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Eh bien, il a beaucoup chanté l'Afrique. Pour le chanteur, par exemple, Tsiken Djafakoli, Bob Marley souhaitait que le reggae retrouve sa source, c'est-à-dire l'Afrique. Effectivement, il a beaucoup chanté l'Afrique, je vous le disais, par exemple, dans Africa Unite. Et voilà, point final à cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. C'était Aidan Outkou à la technique. Merci, chers amis fidèles, d'avoir été des nôtres ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée.
Afrique, les infos.